8h19 à Paris, c'est l'un des grands dangers mis en avant cette semaine par Amnesty International dans son rapport annuel sur la situation des droits humains dans le monde. Le développement rapide de l'intelligence artificielle risque d'accélérer l'affaiblissement de l'état de droit, c'est ce qu'écrit l'ONG, qui consacre une partie de son analyse aux dangers liés à l'IA et de manière plus globale aux technologies. Notre invité ce matin pour en parler est chargé de plaidoyer liberté, spécialiste de ces questions au sein de la branche française d'Amnesty International. Katia Roux, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté l'invitation d'RFI. Un rapport publié après une année 2023 marquée par des avancées technologiques majeures, notamment en termes d'intelligence artificielle. Si votre organisation choisit aujourd'hui de mettre en avant cette thématique, est-ce parce que l'année qui vient de s'écouler constitue un tournant ?
L'année qui vient de s'écouler constitue un tournant. On a pu constater que désormais, les systèmes d'intelligence artificielle, donc d'IA, étaient présents dans quasiment tous les aspects de notre vie. Ils sont souvent présentés comme des solutions techniques pour répondre soit à des questions sécuritaires, soit à des problèmes structurels comme la pauvreté, la discrimination. Eh bien, nous, on a constaté que bien souvent, ces systèmes venaient alimenter les discriminations, les inégalités, le racisme et pouvaient porter atteinte aux droits humains.
Avec la notion, évidemment, que ce ne sont pas des intelligences artificielle magique, mais qu'elles sont codées par des humains avec leur biais. Alors le rapport d'Amnesty International et les travaux que vous menez au quotidien sur ce sujet insistent notamment, pour rentrer dans le détail, sur les dangers que l'intelligence artificielle représente en termes de surveillance. Vous soulignez un usage accru des technologies par les États pour le maintien de l'ordre. En termes de systèmes employés et de pratiques, de quoi parle-t-on ?
Alors très concrètement, ce sont par exemple des systèmes de reconnaissance faciale, des systèmes de reconnaissance des émotions. On a constaté que de plus en plus de gouvernements, partout dans le monde, se tournaient vers ces technologies pour répondre à des questions sécuritaires. Donc ça peut être lors de grands événements sportifs, ça peut être lors de manifestations. Très concrètement, la police new-yorkaise par exemple a révélé l'année dernière qu'elle utilisait la reconnaissance faciale lors de manifestations du mouvement Black Lives Matter. On sait que ça peut être également utilisé pour contrôler la circulation des populations comme dans les territoires palestiniens occupés où la reconnaissance faciale sert à accepter ou non le passage des Palestiniens et Palestiniennes au checkpoint. On sait que ça a été utilisé en Inde, au Royaume-Uni également. En France, on n'y est pas encore avec la reconnaissance faciale, mais avec la loi JO, on passe une étape avec la vidéosurveillance algorithmique, donc c'est vraisemblablement l'étape d'après. On le voit, il y a vraiment une volonté de recourir à ces technologies pour répondre aux enjeux sécuritaires qui sont légitimes d'une part, mais avec des risques extrêmement grands pour les droits humains d'autre part.
J'aimerais m'arrêter un instant sur ce que vous disiez. Vous parliez de la France et des Jeux Olympiques avec cette légalisation de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la vidéosurveillance. C'est la première fois qu'un pays de l'Union européenne le fait, soit dit en passant. Il ne s'agirait pas, vous le disiez vous-même, de reconnaissance faciale. Alors, quelle menace représente le système qui est en train d'être mis en place en France ?
Alors, le système qui va être développé, qui est d'ailleurs déjà testé avec la loi JO, c'est de la vidéosurveillance algorithmique. Donc concrètement, ça veut dire que ce sont des algorithmes qui vont repérer sur les flux issus des caméras de vidéosurveillance des comportements suspects, des situations anormales pour alerter les agents de sécurité. Ça comporte déjà des risques en matière d'ingérence dans la vie privée, l'effet dissuasif de cette surveillance et puis potentiellement des discriminations. Ça pourra peut-être permettre de cibler tel ou tel groupe de population en fonction des situations qu'on va repérer. Mais ce sur quoi on alerte et ce qui nous inquiète véritablement, c'est la porte ouverte à l'utilisation de technologies toujours plus intrusives. On le sait avec ces systèmes, ça marche par paliers. Là, on vient de passer une marche et ce qui nous attend probablement à la prochaine, ce sont les systèmes de reconnaissance faciale, ce sont les systèmes de reconnaissance des émotions qui sont déjà expérimentés en France, dans beaucoup de villes. Et aujourd'hui, il est très important de pouvoir l'interdire avant qu'il soit déployé, parce qu'après c'est toujours trop tard.
Sur la situation au Moyen-Orient, vous parliez de la reconnaissance faciale pour surveiller les Palestiniens, notamment au checkpoint. Il y a aussi des enquêtes de presse qui montrent depuis le 7 octobre que l'IA est utilisée pour identifier des cibles dans la bande de Gaza. Ça nous donne un aperçu de ce que serait, de ce qu'est l'utilisation de l'IA dans une guerre. Il faut être particulièrement vigilant sur ce point-là.
Ça montre bien que l'IA et les différents systèmes peuvent être utilisés comme des armes numériques. On l'a vu notamment avec le logiciel espion. Et là, Israël était encore une fois en première ligne avec le logiciel Pegasus. Ce sont des outils qui peuvent être utilisés abusivement pour cibler de manière disproportionnée, par exemple, des membres de la société civile. civile, des journalistes, des défenseurs des droits humains, des avocats, des opposants politiques, les personnes qui dérangent, et pour pouvoir effectivement mieux les contrôler, voire les faire taire. C'est ce qui se joue, et l'année dernière a encore une fois montré que les gouvernements utiliser ces outils-là pour faire taire les membres de la société civile.
Un mot aussi sur un autre point que vous évoquez dans votre rapport, l'utilisation de l'intelligence artificielle aux frontières européennes. De quoi s'agit-il ?
Absolument. Les États, de plus en plus, et notamment les États membres de l'UE, mais aussi les États-Unis, utilisent un certain nombre de systèmes pour plusieurs choses. Un exemple, iBorder Control, c'est un système qui a été financé par l'UE, qui est testé en Grèce, en Lettonie, en Hongrie. Et concrètement, c'est un système qui repose sur un détecteur de mensonges. Mmh. Et donc concrètement, le système d'IA va analyser lors d'un interrogatoire, quand une personne veut franchir une frontière, chaque micro-expression du visage pour déterminer si la personne répond honnêtement ou pas. Si elle répond honnêtement, elle va recevoir un code et pouvoir passer. Dans le cas contraire, elle va être renvoyée vers d'autres personnes. Donc ça peut littéralement déterminer le passage d'une frontière d'une personne qui demande l'asile.
Il y a cette utilisation par les États de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies. Il y a aussi le rôle que jouent les plateformes. Et vous soulignez un danger, celui de la désinformation d'une part, mais aussi des contenus haineux relayés par les algorithmes. Vous citez notamment l'exemple de l'Éthiopie et du Tigré où le conflit a fait, on le rappelle, plus de 600 000 morts en 2 ans selon l'Union africaine. De quoi les plateformes sont-elles accusées dans ce cas précis ?
Les plateformes sont accusées de contribuer, alors là en l'occurrence, à des violences ethniques. En Éthiopie, et il s'agit de Meta, comme elle avait déjà contribué à des violences ethniques au Myanmar il y a encore quelques années contre les Rohingyas, ce sont des plateformes qui permettent, voire qui amplifient le déversement de haine en ligne, puisque leurs algorithmes de recommandation vont booster littéralement les contenus les plus violents. Non pas forcément pour directement cibler telle ou telle population, mais parce que c'est leur modèle d'activité. Les plateformes fonctionnent dans le cadre d'une économie de l'attention. L'idée, c'est de maintenir les personnes le plus longtemps possible en ligne, coûte que coûte. Et donc, si c'est en promouvant des contenus qui sont incendiaires, qui sont clivants, qui sont extrêmes, parce que ce sont les contenus qui font réagir, ils vont le faire. Et donc, effectivement, on a documenté en Éthiopie que les algorithmes de Meta sur la plateforme Facebook amplifiaient les messages haineux et pouvaient avoir des conséquences dramatiques dans la vie réelle, c'est-à-dire légitimer des violences contre un groupe de population.
Pour en revenir à l'intelligence artificielle, l'Union européenne a approuvé début février un tout premier règlement sur l'IA, qui impose notamment aux acteurs d'être transparents sur les données qu'ils utilisent pour entraîner leur programme. La construction de ce texte ne s'est, ceci dit, pas faite sans difficulté. La France et d'autres pays, notamment l'Allemagne, ont été chercher des concessions pour protéger les start-up qui travaillent dans ce domaine. Quel regard portez-vous sur ce texte ?
Alors, on considère que c'est une occasion manquée. On avait effectivement beaucoup d'espoir. C'est quand même la première législation au monde qui vise à encadrer les systèmes d'IA, tous les systèmes d'IA en fonction des risques et notamment de l'impact sur les droits humains, ce qui est une bonne chose. Mais on a vu petit à petit le texte être détricoté. Là où, par exemple, le Parlement européen poussait des obligations ambitieuses comme des interdictions de la reconnaissance faciale, par exemple, les États membres de l'UE et la France en première ligne ont tout fait pour affaiblir les obligations, ont tout fait pour affaiblir l'encadrement et les interdictions. En, par exemple, intégrant des exceptions liées à la sécurité nationale. C'est-à-dire qu'un système pourrait être interdit parce que dangereux pour les droits humains, comme la reconnaissance faciale, mais ce sera possible pour les forces de l'ordre, les forces de police, de les utiliser. Donc, c'est une occasion manquée de véritablement protéger les droits humains.
Il nous reste moins d'une minute, Katia Roux. Tant que le développement de l'intelligence artificielle est piloté par des acteurs privés avec des intérêts d'abord économiques, est-ce qu'une réelle régulation vraiment protectrice est possible ?
Alors, elle est compliquée, mais elle est nécessaire. Effectivement, on n'attend pas des acteurs qu'ils s'auto-régulent. Leur intérêt, c'est plutôt le profit. On nous dit que la régulation freine l'innovation. Aujourd'hui, poser des cadres clairs qui respectent les droits humains, ce serait ça le véritable progrès.
Katia Roux, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes chargée de plaidoyer liberté à Amnesty International, spécialiste des questions de nouvelles technologies. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir sur RFI ce matin. Très bonne journée.
Merci.